Bonjour à tous. Il est très rare que nous puissions nous réunir ici le matin. Il est très rare que nous le fassions quelquefois dans l'année. Alors, bonjour. J'espère que vous êtes tous réveillés. J'espère que vous êtes tous réveillés. Je voulais tout d'abord mentionner que nous sommes ici à la Pentecôte. C'est un jour très spécial, un jour très spécial. Un jour qui illustre, bien sûr, comme vous l'avez entendu, Monsieur Bext a ouvert le service avec, en tant qu'animateur de chant, il a mentionné qu'Israël a reçu la loi aujourd'hui. Moïse est monté au Sinaï, a reçu la loi de la main de Dieu et est redescendu, et nous connaissons tous l'histoire. Cela a été donné en ce jour, à un moment très important de l'histoire de la véritable Église de Dieu. L'Église dans le désert, et ensuite, bien sûr, dans l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament, l'autre chose qui s'est produite, la chose la plus importante qui s'est produite en ce jour, c'est que l'Église a été construite, l'Église du Nouveau Testament a été construite. Dieu a répandu son Saint-Esprit en ce jour. Il y a d'autres choses qui sont associées à ce jour, mais c'est un jour très, très, très spécial. Nous en avons entendu parler dans l'offertoire de ce matin. Ce qui est vraiment intéressant à propos de ce jour, c'est qu'il porte de nombreux noms, peut-être plus que n'importe quel autre jour saint, du moins à ma connaissance. Il porte le nom de Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Il porte également le nom de fête des semaines. Nous comptons 50 jours ou 7 semaines après le sabbat pendant les jours des pains sans levain. C'est pourquoi on l'appelle la fête des semaines. C'est la fête de la moisson. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le Lévitique 23. Excusez-moi, dans l'Exode 23. Nous n'y reviendrons pas, mais c'est la fête de la moisson. Avant la fête des récoltes, qui correspond à la plus grande récolte de l'automne. On l'appelle aussi la fête des premiers fruits. Mais il y a un autre nom, un autre nom. Si vous y pensez, vous pouvez l'écrire. C'est la fête de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Voyez si vous pouvez remplir le vide. Je vous préviens, c'est une question piège, donc vous ne comprendrez probablement pas. Mais peut-être que vous comprendrez après un petit moment. Passez au chapitre 23 du Lévitique. Apprenons un peu sur le jour avant de. Cette introduction sera un peu plus longue que d'habitude, simplement parce qu'elle aborde certains points concernant ce jour avant d'entrer dans le sujet principal qui, bien sûr, est lié à ce jour. Lévitique, chapitre 23. Reprenons au verset 15. Lévitique 23 au verset 15. Avant le verset 15, il est question des jours des pains sans levain et Christ était la gerbe de la vague. La gerbe était supprimée pendant les jours des pains sans levain. Puis, au verset 15, il est dit, vous compterez, à partir du lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande mobile, 7 sabbats accomplis. Comptez 7 sabbats pendant les jours des pains sans levain, ce qui vous amène à aujourd'hui, après 50 jours. Vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous offrirez à l'Éternel une nouvelle oblation. Vous ferez sortir de vos demeures deux pains de 2/10. Qu'est-ce que c'est que ces deux pains? Dieu avait la gerbe d'agitation, juste la gerbe d'agitation se produisait pendant les jours des pains sans levain, mais maintenant que 50 jours se sont écoulés, deux pains d'agitation doivent maintenant être agités. L'Église a toujours enseigné que ces pains représentent les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Rappelez-vous, c'est la fête des premiers fruits. La fête des premiers fruits. Dans le plan de Dieu, les premiers fruits, les toutes premières personnes avec lesquelles il travaille depuis 6000 ans sont tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il appelle spécifiquement des gens hors du monde pour les utiliser dans un but très spécial. Ces pains ondulés représentent ses saints. Les premiers fruits. Simple. Au milieu du verset 17, on lit « Ce sera de la fleur de farine, cuite avec du levain, et ce seront les prémices de l'Éternel. Vous offrirez avec le pain sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Et nous ne faisons plus ces choses aujourd'hui, les sacrifices physiques, car nous comprenons que le sacrifice du Christ a changé tout cela pour le Nouveau Testament. Avec leur viande et leur boisson, et avec un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. » Verset 19. Tu sacrifieras un bouc en sacrifice pour le péché, et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Verset 20. Le prêtre les agitera avec le pain des premiers fruits en offrande devant l'Éternel, avec les deux agneaux, et ils seront consacrés à l'Éternel pour le prêtre. Vous publierez le même jour, c'est-à-dire aujourd'hui à la Pentecôte, afin que ce soit pour vous une sainte convocation. Vous n'y ferez aucune œuvre servile. C'est pourquoi nous avons des services doubles. Nous n'allons pas travailler. Normalement, nous n'irions pas nécessairement travailler le dimanche. Beaucoup de gens vont travailler le dimanche, mais pas nous aujourd'hui. On n'y fera aucune œuvre servile. Au milieu de 21, et ce sera une loi perpétuelle dans toutes vos demeures, de génération en génération. Qu'est-ce qu'un premier fruit? Pensez à un arbre ou à une plante qui produit des fruits. Chaque arbre a les premiers fruits qu'il produit. Chaque plante produit ses premiers fruits. Ces fruits sont ceux que vous cueillez en premier, évidemment, avant de cueillir les autres pendant le reste de la saison des récoltes ou de l'été. Ainsi, une fois de plus, ce jour indique la toute petite récolte, si vous voulez, des saints qui vont entrer en premier dans la famille de Dieu. Il s'agit de nous tous. C'est nous tous, en remontant l'histoire de l'Église jusqu'aux tout premiers saints qui ont marché sur cette terre dans l'Ancien Testament. Et nous sommes tous les premiers avant la grande fête du rassemblement à l'automne, qui représente le reste de l'humanité entrant dans ce que nous avons au départ. Revenons à la question initiale. Je voudrais inventer un nouveau terme pour cette journée. Vous pouvez penser que c'est un peu douteux, mais vous comprendrez où je veux en venir. Et ce nom que je vais inventer contient plusieurs noms. Si l'on appelle ce jour la fête des premiers fruits, pourquoi, mes frères, ne l'appellerait-on pas aussi la fête du Christ, par exemple? Christ était le premier fruit parmi tant d'autres premiers fruits. Pourquoi n'est-ce pas la fête d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? C'est la fête des premiers fruits. Je fais juste les prémices en les appelant par leur nom. C'est aussi la fête de David, la fête de Salomon, la fête de Ruth, de Nis, de Loi, de Tabitha, de Jacob, de Daniel, de Jacques, de Sarah. Certains de ces noms sont des personnages bibliques, mais d'autres sont des personnes qui se trouvent ici, même dans cette salle. C'est la fête, mes frères. Vous pourriez écrire votre propre nom dans l'espace, la fête de votre nom. C'est de cela qu'il s'agit en ce jour. La fête des premiers fruits. Bien qu'on estime qu'il y a eu 100 milliards de personnes, on pourrait dire qu'il y en a peut-être beaucoup plus que cela. Mais soyons prudents et disons que l'on estime à 100 milliards le nombre de personnes qui ont vécu sur Terre au cours des 6 derniers millénaires. Dieu n'a travaillé et appelé qu'un très, très petit nombre de personnes. Mais la Bible ne dit nulle part combien de personnes Dieu a choisies pour être ses prémices. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter là, mais vous pouvez lire le Deutéronome 33. Les trois premiers versets de Deutéronome 33 montrent que Dieu travaille avec ce qu'il appelle 10 000 saints. Pas des millions, des millions, des millions et des milliards. Mais ce mot est un peu intéressant. Il peut signifier des myriades, il peut signifier une abondance, il n'est donc pas très spécifique. Jude 14 cite le Deutéronome en disant à peu près la même chose, le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement. Maintenant, ce mot dans le grec, vous pourriez penser, eh bien, peut-être que cela nous donnera un peu plus d'indications sur le nombre de personnes qui sont dans le groupe des premiers fruits. Mais ce n'est pas le cas, il signifie aussi myriade en grec, mais il est traduit 10 000 à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Existe-t-il donc un endroit qui nous donne un chiffre encore plus précis? Et, bien sûr, frères, si vous êtes dans l'Église de Dieu depuis un certain temps, vous savez qu'il y en a un, et c'est dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Passez au chapitre 14 de l'Apocalypse. Je vais lire des parties de deux versets, Apocalypse 14. Reprenons au premier verset. Je regardai, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de leur père écrit sur leur front. Quel est ce nombre? Se peut-il, frère, que pendant les 6 000 ans d'existence de l'humanité, seules 144 000 personnes soient appelées en premier, et pas seulement appelées, mais qu'elles entrent en premier dans la famille de Dieu? Comment est-ce possible pour un si petit nombre? Comment est-ce possible? S'il y a la moindre question, frère, à ce sujet, et nous savons ce qu'est la fée des premiers fruits, le verset 4 scelle l'affaire si vous voulez. Au milieu du verset 4, il est dit, « Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes les prémices qui se préparent à entrer dans la famille de Dieu comme les 144 000. Beaucoup de prémices sont déjà mortes. Ils ont fait leur temps, et c'est un groupe très spécial. Bien entendu, M. Pack explique depuis de nombreuses années que ce groupe comprend tous les saints des 6 000 ans d'existence de l'homme. La question reste donc posée, comment rester parmi les 144 000? Comment rester dans les 144 000? Comment rester dans les 144 000? Comment pouvons-nous savoir que nous serons là lorsque Dieu viendra avec 10 000 de ses saints? Nous savons maintenant exactement combien de 10 000 cela représente dans le Deutéronome et dans Jude. Il y a 3 qualités nécessaires que nous allons examiner aujourd'hui. Nous examinerons, pour le reste du sermon, 3 qualités nécessaires pour faire partie des 144 000. Mais d'abord, étudions 2 passages fascinants avant d'aborder ces 3 qualités, 2 passages fascinants qui montrent à quel point il est spécial, à quel point il est merveilleux d'être considéré comme faisant partie de ces 144 000. Le simple nombre devrait nous indiquer que nous sommes très spéciaux pour en faire partie. Mais passons au chapitre 2 de Tite. Si vous êtes dans l'Apocalypse, revenez quelques pages en arrière, au chapitre 2 de Tite. Avant le livre des Hébreux, Tite 2 et le verset 14. C'est vraiment spécial d'avoir son nom parmi les 144 000, d'être un premier fruit. Tite 2 et le verset 14, verset 13. Il est dit, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple particulier. Ils sont définis comme étant particuliers parce qu'ils sont zélés, dans leurs œuvres. Verset 15. Parlez, exhortez, reprenez avec autorité, et que personne ne vous méprise. Mais Dieu, en particulier, Paul parle ici à titre de la façon dont Dieu nous appelle un peuple particulier. Et ce mot « particulier » signifie être au-delà de l'habituel, hors de l'habituel, inhabituel, si vous voulez, Être spécial ou propre à quelqu'un. Dieu nous appelle littéralement et nous dit, tu es spécial pour moi. Lorsqu'il dit que nous faisons partie des 144 000, il dit spécifiquement, vous êtes spéciaux pour moi. Tu es à moi. Tu es particulier. Vous êtes inhabituel. Je vais vous traiter différemment du reste du monde. Le reste du monde aura sa chance. Il ne fait aucun doute qu'ils auront exactement la même chance que nous avons tous aujourd'hui. Mais, frère, il nous appelle à être les premiers fruits. Un peuple particulier d'abord, avant qu'il ne travaille avec le reste du monde. À quel point est-il particulier et spécial de faire partie de ce nombre? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes frères, que les chances d'être frappés par la foudre sont nettement plus élevées, 65 fois plus élevées. Il est 65 fois plus probable que vous ou moi soyons frappés par la foudre ou que n'importe qui dans le monde soit frappé par la foudre que d'être appelé parmi les 144 000 personnes sur, disons, 100 milliards de personnes dans l'existence de l'humanité. Il faut s'y faire. Nous savons tous combien il est rare d'être frappé par la foudre. Il est 65 fois plus probable d'être frappé par la foudre que de faire partie des 144 000. Il est beaucoup plus courant d'avoir des quadruplés naturellement que de faire partie des 144 000. Combien de personnes connaissent une famille avec des quadruplés nés naturellement, où il n'y a pas eu de sémination et ainsi de suite? C'est rare. Il est à peu près aussi courant d'avoir un QI de 171 que de faire partie des 144 000. À titre de référence, j'ai effectué une recherche sur Google, et il se peut que cela soit vrai ou non, mais lorsque j'ai tapé sur Google, quel est le QI de Stephen Hawking? Il est de 1,60, soit 11 points de moins que 1,71. Le QI d'Albert Einstein, c'est la même chose, 1,60. C'est ce que, quand vous tapez QI d'Albert Einstein, vous obtenez 1,60. Maintenant, il y a peut-être d'autres sources qui disent qu'il était plus élevé et ainsi de suite, mais il est fondamentalement aussi difficile de trouver quelqu'un avec un QI de 171 que de trouver quelqu'un qui fait partie des 144 000. Faire un trou en un golf est 80 fois plus facile que d'être dans les 144 000. Combien ont fait un trou en un golf? Je ne lève pas la main, à moins que vous ne considériez le lac comme un trou. Kim Jong-un, lui, a fait de très nombreux trous en un, sur un seul parcours, un 9 ou un 18. Il défie tous les pronostics, mais il ne fait pas partie des 144 000. Il aura sa chance, d'accord. Écoutez cela. Une mère qui a 20 garçons défilés sans avoir de fille a à peu près les mêmes chances que de faire partie des 144 000. Si vous êtes une mère et que vous avez eu 20 garçons défilés, vous savez à quel point c'est rare. Je doute que l'une d'entre vous ait même 20 garçons ou 20 filles ou quoi que ce soit d'autre. Mais, mes frères, j'utilise tous ces exemples pour montrer à quel point c'est spécial et que Dieu ne choisit pas les gens n'importe comment. Il nous choisit spécifiquement, vous et moi. La barre est haute. Mais rappelez-vous que Dieu nous a déjà sélectionnés. Il nous a déjà choisis, vous et moi, et notre salut est déjà acquis, à condition que nous tenions bon et que nous n'abandonnions pas. Nous tenons fermement à la vérité ou nous n'abandonnons pas la voie de Dieu. Rappelez-vous, dans Romains 8, vous pouvez vous tourner vers là. Ce ne sont que deux passages qui montrent à quel point il est spécial de faire partie de ce nombre. Les 144 000. Romains, chapitre 8 et verset 28. Dieu ne s'est pas simplement mis un bandeau sur les yeux et n'a pas pointé du doigt les gens en décidant « Oh, oh, je suppose que je vais vous appeler ici au cours des 6 000 dernières années. » Non, non. Non, c'était beaucoup plus réfléchi, médité, très prudent. Vous et moi avons été sélectionnés il y a bien longtemps, mais nous pouvons encore tomber. Nous pouvons toujours faire de mauvais choix, mais si nous ne faisons pas de mauvais choix, nous continuons à faire partie des 144 000. Lisons dans Romains 8, 28. Nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est le seul à nous appeler. Il nous appelle et nous choisit spécifiquement. Il a connu à l'avance ceux qu'il a préconnus. Il a aussi prédestiné ou prédéterminé à appeler. Il nous connaissait depuis longtemps et il avait décidé qu'il nous appellerait à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Verset 30. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera aussi. Verset 31. Que répondrons-nous à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il nous a déjà choisis, frères, nous sommes ici dans cette pièce. Nous observons les jours saints de Dieu, comme il l'a demandé. Nous lui obéissons. Alors, qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait nous faire? Ils ne peuvent pas nous retirer des 144 000, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Verset 33. Qui pourra reprocher quoi que ce soit aux élus de Dieu? Le mot élu signifie sélectionné, choisi par Dieu. Au verset 37, il est dit, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Regardez tous ces termes. Nous sommes appelés, nous avons été connus d'avance, prédestinés, justifiés, glorifiés, nous sommes les élus et nous sommes plus que vainqueurs. Dieu veut que vous réussissiez. Il veut que vous fassiez partie de ces 144 000. Revenons donc au chapitre 14 de l'Apocalypse et passons en revue ces trois caractéristiques, ces trois qualités nécessaires que les 144 000 doivent avoir. Nous sommes ici à la fête des premiers fruits. La Bible ne parle que très rarement des prémices, mais lorsqu'elle le fait, elle les relie directement aux 144 000. Alors, frères, comment pouvons-nous savoir et comment pouvons-nous être certains que nous ferons partie des 144 000? Ce sont les trois qualités essentielles dont nous allons parler aujourd'hui. Comment rester dans les 144 000? Lisons directement le verset 2 jusqu'au verset 5. J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe qui jouaient de leurs harpes. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, au nombre de 144 000, devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Nous commençons à voir certaines de ces qualités spécifiques. Ils ont été rachetés de la terre. Elles ne sont pas souillées par des femmes et sont vierges d'une certaine manière. Ce sont celles qui suivent l'agneau partout où il va. Partout où Christ va et conduit son Église, les 144 000 suivent, c'est une autre qualité. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes. C'est une autre façon de dire « rachetés de la terre ». Ce sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il ne s'est trouvé dans leur bouche ni fraude ni tromperie, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Toutes les qualités que nous venons de lire, « rachetés »,« sans faute »,« vierge », suivent l'agneau. Ils ne sont pas souillés par des femmes. Il n'y a pas de ruse dans leur bouche. Toutes ces qualités peuvent être résumées en trois catégories. Examinons la première catégorie. Racheter de la terre ou racheter d'entre les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un terme difficile à comprendre. Que signifie être racheté? Racheter, c'est simple. Si nous cherchons le sens du mot, il signifie être acheté. Acheté ou acquis? Prenons vraiment un peu de temps et réfléchissons à ce que signifie être acheté ou racheté. Parce que si nous voulons être dans les 144 000, si nous voulons rester dans les 144 000, je devrais dire, nous devons nous considérer comme des biens achetés. Dieu nous a achetés. Est-ce que nous nous voyons sous cet angle, que notre vie n'est pas la nôtre mais celle de quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu? Nous nous référons au chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens. Comprenons ce que signifie être acheté. 1 Corinthiens chapitre 6. On pourrait résumer cette première des trois qualités, qualités nécessaires pour faire partie des 144 000. On pourrait la résumer par le mot « acheter ». Nous avons été achetés par Dieu ou achetés. 1er chapitre des Corinthiens, chapitre 6. 1er Corinthiens, chapitre 6 et verset 14. Reprenons-la. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa propre puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Dois-je donc prendre les membres du Christ? Sonne déjà comme si nos corps n'étaient pas les nôtres, mais les membres du Christ. Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Nous ne prendrions pas nos corps pour commettre l'impudicité ou pour aller chercher une prostituée et souiller nos corps de cette manière. Dieu dit que nous prenons, que nous prendrions ce qui est considéré comme les membres du Christ, nos propres corps, et que nous les souillerions d'une mauvaise manière. Nous les utiliserions d'une mauvaise manière, d'une manière que Dieu n'a pas voulu. Il s'agit peut-être d'un exemple plus extrême, mais il permet d'enfoncer le clou. Poursuivons notre lecture. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée ne forme qu'un seul corps? Car deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Tout péché qu'un homme commet est en dehors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pèche contre son propre corps, quoi? Verset 19. Paul dit à nouveau, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? En quoi ne sommes-nous pas les nôtres? Car le verset 20 dit, « Vous avez été achetés à un certain prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un exemple extrême de quelqu'un qui sort et prend, disons qu'il se convertit, qui sort et prend son corps et le souille avec une prostituée. C'est un exemple extrême de la façon dont nous pouvons mal utiliser nos corps, les corps même que Dieu a achetés. Il est dit ici, même au verset 20, dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. Notre corps physique et notre esprit appartiennent à Dieu. Le prix décrit au verset 20, « Car vous avez été achetés à un prix élevé, n'était pas un prix bon marché. » Christ a versé son sang. Nous sommes sortis de la période de la Pâque il y a quelques semaines. Nous avons compris très récemment et tout récemment dans nos esprits le prix même que Christ a payé et que Dieu le Père a payé pour que nous puissions être achetés. Nous pouvons être achetés. Christ est mort en tant qu'être humain physique, mais aussi en tant que Dieu dans la chair qui n'a pas péché du tout, afin que nous puissions être achetés par Dieu. Pensez-y. Nous n'avons pas été achetés à bas prix. Nous n'avons pas été achetés au rabais, si l'on peut dire. Nous avons été achetés avec le sang même du Christ. Notre corps et notre esprit. C'est pourquoi nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ainsi, le fait d'avoir été acheté ou d'être acheté est défini comme le fait d'être racheté. Voilà ce qu'est la rédemption. Nous avons été achetés et cela signifie que nous nous considérons, à la fois notre corps et notre esprit, comme ne nous appartenant plus. Nous ne sommes pas les nôtres, mes frères. Oui, nous avons un libre arbitre moral, mais c'est là la clé, nous devons nous considérer comme n'ayant plus aucun contrôle réel sur notre vie, d'une certaine manière. Nous avons donné notre corps et notre esprit à Dieu pour qu'il les utilise comme il l'entend. Nous sommes devenus, en fait, un outil utilisé par lui. Complètement entre les mains de notre propriétaire, qui est Dieu. Laissez-vous pénétrer par cette idée. Si nous nous considérons comme des outils entre les mains de Dieu, nous devons nous rendre compte que nous sommes en fait des outils entre les mains de Dieu. C'est ainsi que nous devons nous considérer pour continuer à faire partie des 144 000, car, souvenez-vous, c'est la première des trois qualités. Nous sommes rachetés de la terre. Que signifie racheter? Nous sommes achetés. Nous sommes comme un outil que nous allons acheter chez Lowe's, Home Depot ou Menard, afin de pouvoir l'utiliser pour notre propre bien. L'outil ne peut pas s'utiliser lui-même, mes frères. Aucun outil ne peut fonctionner seul. Si vous achetez un marteau chez Lowe's, ce marteau, lorsque vous l'achetez, vous appartient. Vous pouvez utiliser ce marteau pour poser des cloisons sèches. Vous pouvez utiliser ce marteau pour assembler un meuble. Je suis sûr que des marteaux ont été utilisés pour créer ce pupitre, mais le marteau est complètement, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il doit fonctionner de la manière dont le propriétaire le fait fonctionner. Nous nous référons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Ce concept de rachat ou d'achat est présent tout au long de la Bible. Si vous y réfléchissez et que vous comprenez que vous êtes simplement acheté, c'est tout. Ce concept se retrouve tout au long de la Bible, et nous allons en lire un autre exemple dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 6, et reprenons au verset 11. De même, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez, ainsi qu'à ses convoitises. Ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous à Dieu comme des vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice pour Dieu. Dieu veut que nous soyons comme un violon ou comme un piano. Nous avons entendu une belle musique de piano lorsque nous avons fait l'offrande aujourd'hui. Dieu veut que nous nous considérions, à bien des égards, comme un simple instrument dont il faut jouer. Un instrument. Ce mot instrument peut signifier outil, il peut signifier d'autres choses, mais considérez-le comme un instrument, ce piano ne peut pas jouer tout seul. Nous devons permettre à Dieu d'en jouer. Je vous pose donc cette question et je me la pose à moi-même. Quel genre d'outil sommes-nous? Quel genre d'instrument sommes-nous? Il existe différents types d'outils. Quel est votre type d'outil? Êtes-vous un outil rouillé, usé, cassé? Êtes-vous en plastique bon marché, mes frères? Je ne le pense pas. Nous ne devrions pas être faits de plastique bon marché, ou alors nous sommes fiables, bien huilés, bien réglés et calibrés. Un outil qui fonctionne bien, permettant à Dieu de l'utiliser comme il l'entend. Nous savons tous qu'il existe différentes qualités d'outils. Lorsque vous payez un peu plus d'argent, comme Christ l'a fait, comme Dieu l'a fait avec le sang du Christ, le prix le plus élevé, nous ne sommes pas des outils bon marché. Dieu nous a achetés à un prix très élevé. Imaginons que nous allions chez Lowe's et que nous achetions des outils de la meilleure qualité possible. Nous ne nous attendons pas à ce que cet outil soit rouillé ou ne fonctionne pas correctement. Il est préférable qu'il fonctionne en douceur, facilement dans nos mains. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est le but à atteindre. C'est le but pour nous tous, fonctionner comme des instruments bien huilés et bien réglés dans sa main. Nous avons tous des taches de rouille, proverbialement parlant, ici et là. Personne ne sera parfait. Nous ne serons pas des instruments parfaitement joués dans les mains de Dieu. Nous voulons tous l'être et nous nous efforçons tous de l'être, mais nous ne le sommes pas. C'est la réalité de l'être humain, mais nous nous efforçons d'être utilisés par Dieu comme il le veut et non comme nous le voulons. Plus nous nous débarrassons de nous-mêmes, plus nous nous débarrassons de notre propre volonté, plus il est facile de nous mettre entre les mains de Dieu, si vous voulez. Passez à Ésaïe 64. Ésaïe 64. Nous allons lire un verset ici, dans Ésaïe 64 et le verset 8. Il dit ceci. Une autre analogie, une autre façon de nous considérer comme rachetés ou achetés, se trouve dans Ésaïe 64 et au verset 8. Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier, et nous sommes tous l'œuvre de ta main. Si vous avez déjà travaillé avec de la poterie sur un tour de potier, c'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Nous allions en excursion dans une usine de poterie, et ils nous montraient comment faire tourner le tour, en appuyant sur la pédale avec le pied, et le tour tournait. On tapait l'argile. Il fallait que l'argile soit humide pour qu'elle soit malléable, pour qu'elle puisse être moulée, et lorsque vous tapiez sur l'argile et que vous commenciez à faire tourner la roue, vous pouviez former l'argile, vous pouviez pousser l'argile vers le haut et elle commençait à créer une colonne. Ensuite, il faut mettre les poussées manœuvrer l'argile de manière à créer un bol ou un pot. Dieu est le potier. C'est lui qui manipule. C'est lui qui travaille sur nous. On pourrait dire que plus l'argile est humide, plus elle est malléable. Si nous sommes secs, vous tapez sur cette argile sèche et elle va frapper et vous ne, cela ne marcherait pas, cela ne marcherait pas, vous commenceriez à faire tourner l'argile, elle ne se moulera pas si elle est sèche. Nous devons nous considérer comme malléables, modelables par Dieu, facile à utiliser pour lui. Revenons à Ésaïe 45. Quelques chapitres plus tôt, nous voyons à peu près la même chose. Ésaïe 45 et le verset 9. Ésaïe, quelques chapitres auparavant, utilise une analogie très similaire. 45. 9 dit ceci, « Malheur à celui qui lutte contre son Créateur. » Que les tessons se battent avec les tessons de la terre. Si vous vous disputez, c'est entre vous, mais ne vous disputez pas avec Dieu. L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne, « Qu'as-tu fait, et quelle est ton œuvre ?» Il n'a pas de main. Verset 10. Malheur à celui qui dit à son père, « Qu'est-ce qui t'a engendré ?» Ou à la femme, « Qu'as-tu enfanté ?» Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur, interrogez-moi sur mes fils à venir, et sur l'œuvre de mes mains, ordonnez-moi. Dieu a tout créé, il est le potier. Et, mes frères, le but de cette section du sermon est simplement le suivant. Il s'agit vraiment d'un changement d'état d'esprit. Si nous nous voyons dans notre esprit et que nous nous rappelons régulièrement que nous sommes achetés, que nous avons été achetés ou rachetés par Dieu, si nous nous rappelons cela, cela nous aidera à changer nos actions. Lorsque nous nous voyons dans notre esprit comme n'étant rien de plus qu'un instrument, cela nous rend humble, cela nous change. Nos actions suivront. Il sera facile pour Dieu de nous utiliser si nous commençons simplement par reconnaître et nous rappeler constamment que nous sommes des outils et rien de plus. Si nous commençons à nous considérer comme plus que des outils, l'argile commence à se dessécher. L'outil commence à rouiller. Cet instrument commence à avoir des cordes cassées. Les clés sont cassées et ne fonctionnent pas. Il est désaccordé. Mais plus nous nous voyons simplement dans notre esprit comme des instruments et des outils et rien de plus, plus il est facile pour Dieu de travailler avec nous et nous ferons partie des 144 000. Car, mes frères, ce n'est que la première des trois qualités. Des qualités nécessaires. D'accord, passons au point numéro 2. C'est un point plus important. Plus important dans le sens où il couvre plus de terrain dans l'Apocalypse 14 que nous venons de lire. Rappelez-vous que dans Apocalypse 14, il est dit que les 144 000 ne sont pas souillés par des femmes. Ce sont des vierges. Il est dit qu'il n'y a ni ruse ni tromperie dans leur bouche et qu'elles sont irréprochables. Nous allons regrouper ces quatre points en un seul. Elles sont vierges. Pas de tromperie. Elles sont pures. C'est une autre façon de le dire, mes frères. Frères et sœurs, le deuxième point est que nous restons purs. Les 144 000 sont purs. C'est ce qu'est une vierge. Quelqu'un qui est sans ruse, qui ne dit pas de ruse. Ils sont purs. Quelqu'un qui n'est pas souillé par des femmes. Nous venons de lire cela dans les Corinthiens. Cette personne est pure. Quelqu'un qui est sans faute, pur. Que signifie être pur? Les vierges sont pures. Nous sommes purs dans la doctrine. Ceux qui sont les 144 000, ils sont purs dans la doctrine. Ils ne permettent pas aux doctrines de ce monde de s'insinuer dans leur esprit et de commencer à faire leur chemin, repoussant les vérités de Dieu. Les personnes pures laissent entrer dans leur esprit des doctrines pures. Être pur, c'est avoir des pensées pures. Lorsque nous avons des pensées erronées, nous les repoussons au lieu de les laisser s'installer et s'envenimer, si vous voulez. Ils sont purs en parole. Ce que nous disons est pur. Ce n'est pas comme la conduite ou les mots que vous voyez dans le monde. Enfin, ceux qui sont purs ont une conduite pure. Pure dans tous les domaines. C'est ce que Dieu veut. C'est la deuxième condition pour être dans les 144 000. Passez au chapitre 1 de Colossiens. Nous pourrions nous dire, « Ouah, d'accord, pur. Je ne suis pas tout à fait pur. Comment puis-je rester pur? Comment puis-je devenir pur? » C'est une norme incroyablement élevée ou une barre incroyablement haute à atteindre. Comment devenir pur? Colossiens, chapitre 1. Lisons le verset 27. Colossiens 1, 27. À ceux à qui Dieu veut faire connaître parmi les païens la richesse de la gloire de cette majesté, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait dans Christ Jésus. C'est à cela que je travaille. Paul parle de travailler et d'œuvrer pour aider à rendre les frères purs ou parfaits. C'est le travail d'un ministre. Si vous voulez en venir aux éléments fondamentaux de ce qu'est un ministre, le travail du ministre est de servir de telle sorte qu'il aide à rendre les frères parfaits ou à les préparer à les rendre parfaits. Je m'efforce d'accomplir l'œuvre qui agit en moi avec puissance. Ainsi, frères, les ministres du corps du Christ, le gouvernement de Dieu, ont pour fonction d'aider non seulement eux-mêmes, mais aussi chacun d'entre vous et chacun d'entre nous à devenir parfait. C'est le travail d'un ministre. Paul l'a dit lui-même. Enseignant à tous les hommes la sagesse, afin de les rendre tous parfaits dans Christ Jésus. Le travail d'un vrai pasteur est défini ici comme étant de travailler, de s'efforcer de présenter tout le peuple de Dieu dont il est à la charge comme étant parfait devant Dieu en Christ. Mais il est clair qu'aucun d'entre nous n'est parfait, mes frères. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Tout comme nous pouvons avoir quelques taches de rouille sur nous en tant qu'outils dans les mains de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Mais, frères, c'est le but, d'accord? Comprenez que Dieu va nous donner la norme par laquelle nous devons nous mesurer. Il ne va pas abaisser cette norme ou nous donner une norme inférieure à la perfection. Il va dire, mon critère est parfait. Ma norme est pure. Efforcez-vous d'y parvenir. Si sa norme était inférieure à cela, mes frères, aucun d'entre nous n'atteindrait la pureté. Je vous le garantis. Nous n'en ferions même pas notre objectif. Nous placerions la barre trop bas. Dieu mettrait la barre trop bas. Il place donc la barre très haut. Il ne sait qu'aucun d'entre nous dans cette vie, physiquement parlant, ne sera parfait. C'est pourquoi vous lisez dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » C'est la norme, mes frères. Mais Dieu ne dit pas, « Nous devons être parfaits tout de suite. » Tout de suite. Vous feriez mieux d'être parfaits ou vous ne serez pas parmi les 144 000. Vous feriez mieux d'être pur ou vous ne serez pas dans les 144 000. Non. Devenir parfait. C'est l'objectif. C'est ce à quoi nous aspirons. Passez au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 4, et nous ne lirons qu'un seul verset. Dieu nous donne la norme à laquelle nous devons aspirer. Quelle est cette norme? Lisons-la ici. Au verset 13 d'Éphésiens 4. Jusqu'à ce que nous arrivions tous. Excusez-moi, lisons le verset 9. Le verset 10, excusez-moi. Celui qui descend est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est donné aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes, aux autres des pasteurs, aux autres des docteurs. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement de Dieu est-il en place, mes frères? Cela correspond parfaitement à ce que nous lisons dans Colossiens. Le gouvernement de Dieu est en place pour le perfectionnement des saints. Le mot « perfectionnement » signifie en fait « équipement ». L'équipement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. C'est ce que nous serons, frères, lorsque nous entrerons dans les 144 000, lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu. Nous serons parfaits quand nous deviendrons Dieu nous aussi, dans la famille de Dieu. En attendant, nous recherchons la perfection. Nous devrions nous voir sur une trajectoire ascendante vers la perfection. Quelle est cette mesure de la perfection, ici, au verset 13? À la fin, il est dit, l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Christ est la norme. Il est notre frère aîné. C'est lui qui est descendu dans la chair et qui nous a montré qu'il était possible d'être parfait. Aucun d'entre nous ne sera parfait dans cette vie. Nous pécherons tous, nous manquerons tous à nos devoirs, mais considérons-nous Christ comme la norme? Voyons-nous la perfection comme la norme? Y aspirons-nous toujours ou avons-nous, dans notre esprit, abaissé la barre d'une manière ou d'une autre? Nous ne pouvons pas abaisser la barre. La barre doit rester la perfection, la pureté, pour faire partie des 144 000. Ainsi, frères, parce que Dieu a donné son gouvernement pour le perfectionnement des saints, si jamais nous nous trouvons dans une position où nous pourrions recevoir une correction ou des conseils d'une manière ou d'une autre de la part du ministère, Ce n'est pas parce que le ministère vous déteste ou ne vous aime pas ou qu'il veut vous avoir. Ce n'est pas du tout le cas. C'est exactement le contraire. Si nous avons besoin d'être corrigés ou remis au centre de la route, vous avez entendu dire que nous pouvons tomber dans deux fossés. Nous sommes sur ce chemin, sur cette route de la vie, et nous pouvons facilement tomber dans un fossé ou dans un autre fossé. Nous devrions rester au milieu de la route. Parfois, si nous ne nous voyons pas aller dans un fossé, il faut que le ministère de Dieu nous guide pour nous aider à corriger notre chemin. C'est seulement parce que, frères, ces ministres veulent vous voir debout devant Christ et Dieu et faire partie des 144 000 parfaits, purs. C'est pourquoi la correction vient. Philippiens 2 et le verset 12. Quelques pages plus loin. Voici ce que dit Philippiens 2 et le verset 12. Philippiens 2, 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît. Si nous voulons devenir parfaits, frères, nous ne pouvons pas nous contenter de faire bonne figure lors des services du sabbat devant le ministre ou, si nous travaillons ici au siège, de faire bonne figure pendant la semaine, pendant les heures de travail. Devenir pur est une responsabilité qui s'exerce 24 heures sur 27. Il devrait s'agir d'un état d'esprit, tout comme le fait de changer d'avis pour se considérer comme un outil ou un instrument acheté par Dieu. Cela devrait également être un état d'esprit. Se voir 20 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, se voir et s'efforcer de devenir pur. Cela peut être à la maison, derrière des portes closes, dans nos chambres à coucher. Cela peut être à l'extérieur, en public. Nous sommes censés être des lumières à tout moment de notre vie. Nous ne sommes jamais censés prendre une minute de repos. Nous ne pouvons jamais baisser la main et dire « Bon, maintenant je n'ai plus besoin d'être pur. C'est mon temps de repos pour être pur ce soir. » Non, non, non. Ce n'est pas comme cela que cela marche. Nous devons rester purs tout le temps ou nous efforcer de rester purs tout le temps, même lorsque le ministère ne nous regarde pas. Tite chapitre 1, retour livre de Tite, Tite 1. Pour être purs dans cette vie, nous devons comprendre ce que c'est que d'être purs maintenant. Pouvons-nous être purs d'une certaine manière maintenant? Oui, nous le pouvons. Voici comment. Tite 1, au verset 9, dit ceci, « Tenir fermement la parole fidèle qu'on lui a enseignée. Ne lâchez aucune vérité. Retenez fermement la parole qui vous a été enseignée, afin qu'il puisse, paragraphe une saine doctrine, exhorter et convaincre les incrédules. » Rappelez-vous que l'un des éléments pour être pur ou faire partie des 144 000 est de ne pas se souiller avec des femmes. Ils sont vierges. Ils ne permettent pas aux doctrines de ce monde de polluer leur esprit. C'est ce que nous pouvons faire en nous attachant à la parole fidèle telle qu'elle nous a été enseignée. C'est ce qui nous sépare des autres groupes dissidents. Ils n'ont pas tenu fermement à ce que M. Armstrong a enseigné dans son intégralité. Verset 10, car il y a beaucoup d'insoumis, de vains parleurs et de séducteurs, surtout parmi les circoncis, à qui il faut fermer la bouche, et qui bouleversent des maisons entières, en enseignant ce qu'il ne faut pas, à cause d'un lucre dégoûtant. L'un d'eux, un prophète même, a dit, « Les Crétois sont toujours des menteurs, des bêtes malfaisantes et des ventres lents. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, reprenez-les vivement, afin qu'ils soient fermes dans la foi. Nous ne pouvons pas tomber dans ce genre d'état d'esprit où nous nous laissons subvertir par des mensonges. Verset 14. Ne pas prêter attention aux fables juives. Restez purs dans la doctrine, purs dans la vérité et les commandements des hommes. Restez purs dans les traditions qui se détournent de la vérité. Verset 15. Pour les purs, tout est pur. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, et même leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, ils sont abominables et désobéissants, et réprouvés pour toute bonne œuvre. Que signifie la phrase « pour ceux qui sont purs, tout est pur » ? Nous sommes censés être purs, mes frères. Cela signifie que si notre esprit est pur, si nous aspirons à la perfection ou à la pureté, nous voyons tout dans le monde pour ce qu'il est exactement. Pour celui qui est pur, tout est pur. Vous voyez avec des yeux purs, avec une vision claire, tout pour ce que c'est, vous voyez le monde et sa saleté, vous voyez la conduite et les normes qui existent dans le monde pour ce qu'elles sont, car elles ne sont pas conformes à Dieu. Ainsi, les personnes pures, lorsqu'elles se heurtent au péché, si le péché s'approche d'elles en quelque sorte, le voient pour ce qu'il est, elles sont capables de la reconnaître. C'est cela être une personne pure. Pour les personnes pures, tout est pur. Ils sont facilement reconnaissables pour ce qu'ils sont. C'est ce que nous devrions nous efforcer d'avoir, mes frères, quoi que nous rencontrions dans la vie, le voyons-nous exactement pour ce qu'il est? Si c'est bon, c'est très bien. Tout ce qui est pur pour celui qui est pur, y compris ce qui est bon. Si quelque chose se présente à vous, si vous êtes confronté à une situation dans la vie et que ce n'est pas grave, c'est bien. Pour les purs, toutes les choses sont pures. Vous le reconnaissez pour ce qu'il est, et c'est bien de s'engager dans cette activité, mais si quelque chose de mauvais se présente à vous, que faisons-nous? Le voyons-nous pour ce qu'il est et le fuyons-nous? Ou bien cédons-nous parce que nos yeux sont aveuglés, parce que nos yeux sont un peu embrouillés sur ce sujet, ou parce que nous ne savons pas comment l'aborder? Pour celui qui est pur, tout est pur. Un dernier verset dans ce sous-titre, c'est le chapitre 1 de Jacques. Les 144 000 ne sont pas souillés par des femmes. Ils sont vierges. Ils ne disent pas de mensonges. Ils sont irréprochables et, frères, encore une fois, en résumé, ils sont purs. Lisons un dernier verset ici, dans Jacques 1, au verset 27, pour mieux comprendre la pureté. Verset 27, Jacques 1, la religion pure et sans tache devant Dieu et le Père, c'est cela. Nous voulons être purs, nous y voilà. Nous ferions mieux de comprendre cela et d'y adhérer. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se tenir à l'écart du monde. Pour les purs, tout est pur, mes frères. Si des tâches du monde, si vous voulez, des tâches du monde commencent à s'approcher de vous et à vous attaquer, fuyez-les. Tenez-vous à l'écart du monde. Cela peut être dans vos pensées. Cela peut être dans votre conduite. Cela peut être dans votre, tout ce qui se trouve dans votre esprit. Cela peut être n'importe quoi dans vos paroles. Gardez votre pureté. Établissez la norme que Christ a établie. La norme, la plénitude du Christ. La perfection. C'est notre norme. C'est ainsi que nous deviendrons purs. Et c'est le deuxième point. Passons au troisième et dernier point abordé aujourd'hui. Il est dit dans Apocalypse 14, au verset 4, que les 144 000 sont ceux qui suivent l'agneau en tout temps, partout où il va, ils suivent l'agneau. Ils suivent Christ là où Christ les conduit. Si nous comprenons que nous sommes rachetés ou achetés par Dieu, il nous est plus facile de remplir cette qualité finale des 144 000. Reportez-vous au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Si nous nous considérons comme achetés, dans notre esprit, nous nous disons, « D'accord, Dieu m'a acheté, je ne suis rien d'autre qu'un outil entre ses mains. Si nous nous voyons ainsi, il devient beaucoup plus facile d'accomplir cette troisième qualité des 144 000, qui est de suivre simplement Christ où qu'il aille. Suivre l'agneau où qu'il aille, parce que, souvenez-vous, nous ne sommes que des outils. Nous ne sommes que des outils entre ses mains. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Nous lirons un peu de son histoire ici au chapitre 9, verset 1, avant le tournant de sa vie. Voyons ce qui s'est passé. Paul, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1, dit ceci, Saul. Avant d'être rebaptisé Paul par Dieu. Saul, qui proférait encore des menaces et des massacres contre les disciples du Seigneur, alla trouver le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour Damas, pour les synagogues, afin que, s'il trouvait des disciples de Dieu, des disciples du Christ, des hommes ou des femmes, on les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il arriva près de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutez-vous ? » C'est Christ qui parle. Il t'est difficile de lutter contre les aiguillons. Et lui, tremblant et étonné, dit, « C'est son tournant, mes frères. C'est tout ce qu'il fallait. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va à la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » À partir de ce moment-là, il était littéralement sur le chemin de Damas, à la poursuite d'autres saints. Vous avez vu au verset 1 que Saul, qui proférait encore des menaces et des massacres contre les disciples, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour Damas, pour les synagogues, afin que, s'il en trouvait de cette manière, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il était sur le chemin de Damas avec cet état d'esprit avant qu'une lumière ne le frappe du ciel et que Christ ne lui dise « Que fais-tu, Paul ? Pourquoi te bats-tu contre les aiguillons ? Pourquoi luttes-tu contre ton propre but ? Que fais-tu ?» C'est tout ce qu'il a fallu à Paul pour commencer à suivre Christ au lieu de persécuter Christ et, bien sûr, les disciples du Christ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Cette réponse nous dit tout sur Paul et donne le ton pour le reste de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de vivre en suivant Christ partout où il le conduirait. Littéralement, dans ce même verset, il dit que Christ lui a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Christ lui a dit « Va faire ceci et attends les instructions. » À partir de ce moment-là, Paul a littéralement commencé à suivre Christ. Pensez-y, mes frères. De nombreux grands personnages de la Bible ont été confrontés à la même situation, différente, mais à un choix très similaire. Abraham, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Abraham dans le pays d'Ur d'où il est sorti. On lui a demandé de se lever et de partir, et il est tout simplement parti. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il a obéi. Il a simplement suivi Dieu et les instructions qui lui ont été données. Passez au chapitre 4 de Matthieu. La Bible est remplie de personnes qui ont été appelées par Dieu à suivre Christ et qui se sont levées et sont parties. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient pour pouvoir le suivre. Pensez à Paul. Pensez à Abraham. Maintenant, pensons à ces quatre personnes dans Matthieu 4. Matthieu 4 et le verset 18. C'est incroyable, vraiment. Mettez-vous à la place de ces personnes et imaginez que vous fassiez ce qu'elles ont fait. Ferions-nous la même chose ? Nous pourrions nous demander. Matthieu 4 et verset 18. Jésus, qui marchait le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et voici ce qu'il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ils ont tout de suite laissé leur filet et ont suivi Christ tout droit. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Encore une autre responsabilité d'un ministre. Mais ce n'est pas tout, mes frères. Continuons à lire le verset 21. En partant de là, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Jacques et Jean de Zébédée, dans une barque avec Zébédée, leur père, en train de réparer leur filet, et il les appela. Rappelez-vous, ils sont trois, deux frères et leur père. Ils quittèrent aussitôt le navire et leur père et suivirent Christ. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ferions-nous la même chose aujourd'hui, frères? C'est choquant de lire cela, mais c'est l'état d'esprit que nous devons avoir. Nous devons être prêts à tout prix. Nous pourrions avoir des problèmes familiaux ou des luttes entre nos collègues de travail à cause de la vérité. Il se peut que nous ayons à nouveau des problèmes à la maison avec notre conjoint, nos enfants ou nos parents. Peu importe de qui il s'agit ou comment cela se produit, mais mes frères, le conflit peut survenir à cause de la vérité. Qui sait, il se peut qu'il y ait eu un conflit résiduel après coup avec Zébédée et ses enfants. Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, c'est que ces deux fils de Zébédée ont immédiatement suivi Christ. Sommes-nous prêts à faire de même, même si cela signifie que nous aurons peut-être plus de problèmes avec les membres de notre famille, nos amis ou nos collègues de travail? Je me souviens que lorsque j'ai été appelé à la sortie de l'université, c'était très intéressant. J'étais en colocation avec deux autres gars, et j'étais appelé, et ils pouvaient voir que les choses changeaient chez moi. Et je me souviens que c'était pendant les jours de Pinhasim, cet endroit, je veux dire, essayez d'imaginer un appartement d'étudiant, d'accord? Un appartement universitaire de trois chambres. Essayez d'imaginer qu'à l'époque des Pinhasim, vous sortiez le réfrigérateur et que vous regardiez ce qu'il y avait derrière. Et les hommes de l'université du four, attention, il ne s'agit pas de femmes, d'accord? C'est inexplicable, mes frères, ce qui s'est passé, ce qu'il y avait derrière ce réfrigérateur. Mais essayez donc d'imaginer que vous étiez mes colocataires pendant les jours de Pinhasim et, vous savez, j'étais un peu trop zélé, je n'ai peut-être pas réalisé à l'époque que je n'avais qu'à nettoyer mes quartiers. Je n'avais pas besoin de nettoyer la salle commune. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait par zèle. Et ce n'était pas le cas, je veux dire, mes amis étaient comme, « Qu'est-ce que tu fais ?» Personne n'est jamais retourné là-bas depuis que ce complexe d'appartements a été construit, il y a probablement 40 ans ou quelque chose comme cela. Le fait de chercher la vérité et de s'en tenir à la vérité, ou à ce que je pensais être la vérité à l'époque, a un peu creusé le fossé entre moi et mes colocataires. N'est-ce pas? À partir de ce moment-là, ils m'ont trouvé un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Qu'est-ce qui lui arrive? D'accord. Nous avons tous des histoires. Nous savons tous que la vérité peut nous séparer de nos proches et ainsi de suite, mais d'une certaine manière, frère, Dieu ne se préoccupe pas tellement de cela. Il veut que nous soyons en paix avec tous les hommes, que nous n'essayons pas de créer un fossé entre nous et le monde, ou entre nous et nos amis, nos collègues ou les membres de notre famille. Il ne veut pas que nous cherchions à créer un fossé, mais si nous faisons de notre mieux et qu'un fossé se forme, nous devons le laisser subsister. Même si cela implique des frictions entre vous et cette autre personne, parfois ou souvent. Mais le prix à payer, mes frères, c'est que nous devons suivre l'agneau partout où il va. Et rappelez-vous que lorsque nous suivons l'agneau à où qu'il aille, Le but de tout cela est que nous puissions faire partie des 144 000. Vous réalisez que si nous suivons l'agneau où qu'il aille maintenant, nous ferons partie des prémices. Tous les autres nettoieront aussi leur cuisine plus tard, n'est-ce pas? Ils ne penseront pas que j'étais si bizarre de le faire quand j'étais à l'université. C'est parce que nous sommes les prémices. Nous faisons les mêmes choses qu'eux, mais nous sommes les premiers à faire les 144 000. Quand on y pense, on est à la pointe du progrès. Nous faisons toutes les choses que tous ces gens dans le monde aujourd'hui feront, mais nous le faisons avant eux et à une époque beaucoup plus difficile parce que nous sommes persécutés et avons des problèmes avec les membres de notre famille à cause de cela. N'oubliez pas cela. Si nous suivons l'agneau là où il va maintenant, nous faisons ce que tous nos amis et parents feront à l'avenir. Tout d'abord, est-il si étrange que Pierre, André, Jean et Jacques soient partis immédiatement pour suivre Christ? Est-il étrange que Shadrach, Meshach et Abednego se soient levés et soient entrés dans la fournaise ardente? Christ était là avec eux, le quatrième, parce qu'ils ont fait tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Tout Israël a été conduit par Moïse et a suivi Christ dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, mes frères. Et avant cela, pendant 40 ans, Moïse a gardé des moutons, faisant simplement ce que Dieu voulait qu'il fasse pendant 40 ans. Puis, pendant 40 ans, il a erré dans le désert pour guider Israël. Luc, chapitre 9, et nous conclurons par ceci. Luc chapitre 9 et verset 57, comme ils allaient par le chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Il n'avait pas la même mentalité que les autres disciples. Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va prêcher le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord leur dire adieu, à eux qui sont chez moi. » Jésus leur dit, « Ceci est essentiel pour nous aussi, frères. Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer à suivre Christ et, à un moment donné, décider, « Oh, non, 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 ces choses-là sont plus importantes dans ma vie que de suivre Christ. » Nous devons toujours suivre Christ. Frères et sœurs, en conclusion, n'oubliez jamais que Dieu vous a déjà appelé et désigné comme faisant partie des 144 000. Rappelez-vous, 144 000 sur 100 milliards de personnes au minimum qui n'ont jamais vécu. Vous êtes dans une catégorie plus exclusive que ceux qui ont été frappés par la foudre ou ceux qui ont un QI supérieur à celui d'un Stan. Et tout ce qu'il faut pour faire partie des prémices de Dieu se résume aux 3 points que nous avons abordés dans ce message. Résumons-les en un seul mot. Rappelez-vous que vous êtes acheté ou acheté. Et que notre vie ne nous appartient pas. Rappelez-vous que nous sommes vierges ou que nous sommes purs et que nous nous efforçons d'atteindre la perfection, que nous sommes purs de ce monde de toutes les manières possibles. Et, frères, ne cessez jamais de suivre Christ partout où il conduit son petit troupeau. Souvenez-vous du jour saint, ce jour saint a été construit pour vous. Nous sommes tous les premiers fruits et faisons partie des 144 000 tant que nous nous en tenons à ces 3 points.